Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Les productions Nuit d'Afrique présentent la 12e édition des Silly d'Or de la musique du monde. Les Silly d'Or, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 11 avril au Club Balatou. Les Silly d'Or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.sillydor.com.
Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxmo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock. Je pense que c'est la 164, mais j'en suis pas certain. Megan, t'allais nous raconter comment c'était une expérience?
Une expérience?
Je sais pas, c'est comme le dernier mot que t'as dit. C'est-tu la 164?
Hey, je vais vérifier ça pour vrai.
Ça doit être la 164.
Je commence un rhume en ce moment, je suis comme en train de surchauffer, mon cerveau est vraiment pas tout là, mais je voulais vraiment être ici pour parler de ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je vais faire mes recherches vite pour savoir si c'est vraiment la 164, mais je pense que oui.
En fait, j'étais comme ultra délégué la responsabilité. Comme, tu sais, au début de l'émission, je me disais ça serait drôle, on va faire comme une espèce de pastiche de c'est qui
et... Qui est...
Non, mais comme... C'est comme qui est le placeholder pour qui dans le dans l'émission, parce que bon, là, je suis rendu que je continue le five-year mission dans ma tête, à dire on continue l'émission, puis on voyage, puis on explore, puis...
Mais,
oui.
Mais c'est ça, mais c'est la deuxième émission d'une longue aventure, donc on avait annoncé la semaine... Il y a 2 semaines.
Il y a 6 ans.
Il y a 6 ans.
Ah oui.
Mais ça sonne... Et oui, effectivement, c'est l'épisode 164.
Merci.
Et on va encore parler... de Star Trek.
Exactement, mais là, dans un équipage là, parfaitement balancé, tu serais qui? Pas qui, tu serais quelle position? Parce que je sais, quand j'ai fait la description de l'émission en avant, je voulais un peu tout assigner un rôle, tu sais, comme t'étais, je pense que t'étais...
Je me souviens plus.
Engineer?
Ouais, non? J'ai plus aucun souvenir de
T'es-tu
ça.
Correct que je te perçois comme un engineer?
Oui.
C'est-tu correct?
Je pense que oui.
OK, parfait, c'est bon. Tant qu'il y a ça,
c'est comme, réglé. J'ai vraiment pas d'opinion, fait que je peux pas dire non.
OK, puis Roxane, toi, t'es correct que je t'appelle capitaine?
Ça va bien aller.
Right. Ah, mais dans ce cas-là, j'aimerais ça être science officer. Est-ce que ça se fait? Ou t'aimerais ça l'être?
Non, je pense que t'as vraiment raison.
Ah ouais, hein? Ouais.
Est-ce qu'elle est comme chief science officer?
Ben oui, oui, oui. Oui.
OK. Oh. Ah, yes, j'ai des responsabilités.
Oui, oui, oui. Parce qu'on va pas mettre des insignes ici, là.
Non.
Ben, en fait, les insignes sont bienvenus, là, mais comme...
Si Pascal avait pu venir, Pascal aurait été Ensign, je pense.
Ah ouais?
En fait, elle voulait être une version New Age de Wesley Crusher.
Ouais, mais Crusher, c'est même pas un Ensign.
Ouais, il est nommé Ensign, ouais, out okay. of nowhere.
Comme très, très, très loin, là, parce que le seul Ensign...
Non, au départ, là, il est genre...
Ah ouais?
Ou il finit pas par l'être, il me semble, non?
Oui, il finit par l'être parce qu'il va véritablement à l'académie éventuellement.
Oui, c'est ça. Mais comme.
Mais il l'appelle Ensign. Je sais pas si c'est un titre officiel ou si c'est juste comme un genre Hey buddy, on va t'appeler Ensign. C'est ça. C'est doctorat honorifique en Ensign de Starfleet.
Faisons pas de blague de ça.
Non, c'est vrai. Il faut faire attention avec les doctorats, c'est sérieux.
Le moins possible. Et André Philippe, qui toi... Oui.
Cadet.
Chef de sécurité.
Ouais, ça me va.
Ouais, OK, parfait. Ça fait que j'ai pas offusqué personne.
Ouais, ouais, mais cadet, c'est un peu poche aussi, là. Tu non, peux quand même te mettre plus haut que ça, là.
Je suis assez nouveau dans Star Trek, donc je veux pas...
J'ai juste écouté Discovery, puis je me suis nommé Chief Science Officer. Oui. Pas besoin d'être humble ici.
J'ai foi en toi.
Et on a foi en toi, merci.
Exactement. C'est gentil.
Puis bon, est-ce qu'il y a comme une position de personne qui écoute, puis qui parle Q? OK, Steph, c'est Q. Merci, Q.
OK.
Le meilleur rôle.
Mais c'est elle bon. Pourrait quand même être cadet, là.
Non, j'y souhaite un rôle plus omnipotent.
Ouais. Je comprends tout à fait.
C'est correct?
Ouais.
Donc, comme Megan l'a expliqué, on va aujourd'hui parler de Discovery. Ça a été un sujet extrêmement important pour nous, puisque à chaque fois qu'on se croisait sur la rue, il fallait qu'on se mette à jour sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Megan, t'es enfin à jour?
Ben oui, là, j'ai écouté la finale quand ça sortit.
Ah, OK, je pensais que comme ça t'a... Ah non, c'est Boris qui avait écouté le dernier.
Oui, c'est Boris qui va être là aujourd'hui.
Bonjour Boris, j'espère que t'as écouté le dernier épisode. et bon, je vais commencer déjà avec mon espèce de blanket statement par rapport à Discovery, c'est que j'ai trouvé qu'il y a énormément de d'impatience. Puis, c'est pas tant de l'impatience que... Lors des premières conversations, ce qui me frappait le plus, c'est le manque de confiance envers la télésérie. Puis, en fait, je ne suis pas ici pour défendre ce point de vue-là, mais plutôt pour dire que je suis optimiste, naïvement optimiste. OK, mais ça, c'est comme un blanket statement par rapport à moi, je m'excuse. le fait que quand on attribue une télésérie de Star Trek à des personnes, j'ai l'impression qu'on ne permet pas à n'importe qui de le faire. Et étrangement, on se retrouve à une époque où les gens disent « Ouais, mais tu sais, J.J. Abrams a juste fait Star Trek pour se préparer pour faire Star Wars parce que c'est ça qu'il voulait faire. » Et ces commentaires-là me pincent énormément. J'ai pas l'impression que Star Trek est une franchise qu'on peut passer à n'importe qui comme Transformers ou comme Fast and the Furious pour toutes ses grandes qualités, mais c'est pas une propriété intellectuelle patate chaude. Quelqu'un qui fait un Star Trek le fait parce qu'il veut faire un Star Trek. Et pour ces raisons-là, j'ai l'impression qu'il y a eu une difficulté de décollage avec Discovery, parce que les gens ont eu, à mon avis, à prendre un moment de confiance, à se dire « Non, non, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, c'est correct, tout est planifié. » Et ça, à mon avis, un peu amoindri l'expérience des trois premiers épisodes, parce qu'on dirait qu'il y avait, pour reprendre une expression qu'on a utilisée pendant le Pop en stock de chat avec Stéphanie, on a comme deux félins qui sniffent l'Uranus puis qui tournent en rond. C'était un peu ça, les premiers épisodes, mais c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup cette expression-là, l'émission.
Ah ouais?
Si vous allez l'écouter, c'est quand même très, très fun. Et on est arrivé à un point, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec Discovery, c'est qu'on est arrivé à un point où les gens, un après l'autre, en écoutant la série, en fait, ah oui, OK, non, ils savent ce qu'ils font. Il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas d'omission, il n'y avait pas de... À chaque fois qu'il y a quelque chose qui était contradictoire ou qui était paradoxal avec le canon, les gens, immédiatement, ruaient des brancards, puis là, c'est comme... Puis là, c'est... Non, ils savent ce qu'ils font. Faites-leur confiance. Puis ça m'a, à mon avis, c'est un très bel exemple laboratoire pour l'impatience des fans. Tu sais, je sais que je tente une fois de temps en temps de faire des introductions à l'émission parce que j'explique comment le phénomène nous sert à comprendre mieux la culture populaire. Mais regardez la réception de la première saison de Star Trek Discovery, puis vous allez voir une espèce de flame war précipité. C'est vraiment ça l'impression que j'ai eue avec les premiers épisodes. C'est cette espèce de comme, non, tu peux pas faire ça comme ça. Ah, c'est trop technologique, on s'en trop là dans le futur, ça contredit. Puis là, c'est, non, attends, on va arriver à la fin. Puis au 13e épisode, on va commenter. Et ici à Pop en Stock, on s'est attendu. On est au 13e épisode. On va en parler avec vous tous qui allez en parler brillamment.
Ben, tu vois, c'est drôle parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Probablement parce que... Mais en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai eu complètement le cheminement inverse de ça. Quand j'ai vu les premiers épisodes, les deux premiers épisodes, j'étais tellement enthousiaste. Je me suis dit comme, enfin, on réussit à faire mon Star Trek, mais en version contemporaine, modernisée. Le trop scientifique m'a plus ou moins dérangé, à part pour le personnage androïde qui pour moi fait aucun sens en sens de canon. J'espère qu'ils vont l'expliquer dans la seconde saison. je veux dire, les androïdes arrivent 200 ans plus tard avec Data, donc je vois mal comment on peut expliquer la présence de ce personnage-là. Mais ça, c'est pas grave, ça m'a pas dérangé dans mon appréciation de la série dans son ensemble. J'ai été vraiment déçue à partir du troisième épisode, entre les épisodes 3 et 6 environ, parce que j'ai senti qu'au niveau de la scénarisation, on essayait de prendre des aises avec un sujet qui était celui, en fait, de la guerre contre les Klingons. Et j'ai trouvé qu'on essayait d'asseoir... En fait, la Fédération, la guerre contre les Klingons, les personnages individuellement, puis en fait, ce qui s'en venait plus tard avec déjà les spoilers, les univers alternatifs. Fait qu'on essaie d'asseoir tout ça en 3-4 épisodes, puis pour moi, ça a été fait un peu garroché. En mon sens, peut-être que la première saison de Discovery aurait dû être 2 saisons plutôt qu'une. Mais c'est un peu ça, tu sais. Puis c'est vrai, à la troisième, au troisième épisode, j'ai perdu espoir. Et... je me suis dit comme « Ah, bah, finalement, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. » Mais Jean-Michel était là et m'a remis sur la bonne voie en me disant « Roxane, fais confiance aux créateurs et aux gens qui font le show. » Puis honnêtement, c'est une émission que j'ai vraiment appréciée et une émission qui, je pense, sincère, somme toute, très bien dans la continuité de Star Trek dans son ensemble. D'ailleurs, je veux dire, la séquence d'introduction est un hommage absolument brillant à l'histoire de Star Trek, tout en donnant son espèce d'indépendance à la série. Moi, j'ai pleuré quand j'ai vu le générique pour la première fois. Moi, j'ai pleuré comme pendant tout le premier épisode, là, comme je l'admets à 100%. Tu sais, c'est comme la première fois où je pouvais... parler de Star Trek de manière hebdomadaire avec mes contemporains, ce qui était complètement fou.
Au lieu de faire référence à des trucs qui se sont passés il y a 15 ans.
Plus que 15 ans, mais tu sais, quand je parle de The Original Series, que j'ai vu genre 40 ans après la sortie, en binge-watching, même si on a dit il y a 2 semaines qu'il fallait pas binge-watcher Star Trek.
T'as le droit.
Merci. Et,
on te donne le droit.
Non, mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir enfin pu écouter Star Trek en ayant une conversation à toutes les semaines avec mes amis, avec un grand Z. et de pouvoir justement me faire dire par Jean-Michel quand je commençais à être un petit peu triste sur le fait que je trouvais que c'était un peu décousu. Non, mais Roxane, fais confiance au créateur. Fait que pour moi, ça a été une super belle expérience en termes de fan de Star Trek de pouvoir vivre ça vraiment de manière contemporaine.
Et toute la problématique que tu parlais au début entre les fans qui sont pas contents, les fans qui sont contents, ça s'inscrit vraiment dans le climat actuel des séries télé où avec Netflix, on a toute l'ère du binge-watching qui arrive. Et il y a comme un espèce de mouvement de résistance depuis 2 ans avec les séries comme celles qui sortent sur HBO notamment, mais comme Riverdale qui sortait à la semaine. Et il y a beaucoup de séries qui essaient de réintroduire ce rythme-là hebdomadaire. Et nécessairement, ça fait des tensions entre 2 manières de faire du storytelling. Mm-hmm. Donc, une à la Netflix, donc où c'que tout doit être écouté en rafale. Donc, c'est comme plus un gros film de 10 heures qu'une série télé. Là. Puis, c'est ça, on perd un peu les réflexes plus classiques du storytelling télévisuel, de cyclicité avec les cliffhangers, avec les rappels, avec les previously on. Mais ça, j'adore ça, là. Ça ramène comme justement tout le sentiment de communauté qu'on perd complètement avec le binge-watching.
Oh, oui, puis en plus, aussi, là, je fonctionne par instinct plus que n'importe quoi d'autre, mais j'ai l'impression que le cycle de diffusion est trop rapide dans le binge-watching. Tu te retrouves à avoir travaillé 6-8 mois sur une saison qui a... j'ai pas les bons mots, là, mais comme un shelf life d'à peu près une fin de semaine. Uh-huh. Puis cette idée-là de water cooler conversation a toujours été un trope dans l'écoute télévisuelle. T'sais, on veut avoir quelque chose qui, une fois que tu rentres le lundi à job, tu fais « Oh my God, j'en viens pas, t'as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé? » T'sais, autant l'avoir vécu, partagé avec toi, Roxane, t'sais, j'ai exactement ce rapport-là avec ma mère. Moi, c'est ma mère qui m'a présenté à Star Trek. Puis exactement comme tu dis, je suis enfin heureux de pouvoir reconnecter à ce vieux réflexe avec elle de... Parce que, bon, la dernière fois qu'il y avait un Star Trek à la télé, j'habitais avec elle. Là, j'habite à côté de chez elle. Ça fait qu'on a pu, à tous les matins, se lever, puis se préparer, puis sortir dehors, puis faire comme, ah, mais il y avait ça, ah oui, tu sais, j'ai remarqué ça, puis tout. Ça fait que effectivement, tu sais, je trouve que ça a beaucoup de validité ce que vous dites les deux dans cette optique-là, que la conversation, l'échange et la communauté, surtout pour le fandom de Star Trek, mm-hmm. qui est une partie prenante de ce fandom-là, est très importante et on n'aurait pas pu faire autrement. On n'aurait pas pu livrer les 13 non. épisodes non, d'une shot puis juste dire, tiens, amusez-vous avec ça, parce que tout le monde aurait oublié le 6, 7, 8. Comme c'est souvent le cas.
Mm-hmm. Non, c'est ça. Puis en plus, ce qui est assez chouette avec cette série-là, c'est que même si c'est des spectateurs qui l'écoutent pour la première fois, il y avait énormément de twists, énormément, surtout à partir de la deuxième moitié après Noël. Il y avait énormément de questionnements sur qu'est-ce qui allait advenir à l'équipage, comment il allait s'en sortir. Ça allait, de façon générale, de plus en plus mal. Donc ça faisait en sorte qu'on avait tendance à émettre énormément d'hypothèses sur qu'est-ce qui pouvait bien se passer, comment il allait s'en sortir, comment ça allait pas être l'annihilation totale. Et petite précision, en passant, c'est 15 épisodes.
Ah oui, on vous dit 15? Time flies.
Oh, ça n'a pas d'allure, se tromper comme ça.
J'ai les toutes devant moi. Donc
non, mais merci.
C'est la précision, juste pour pas qu'on le dise tout le long.
Oh, je vais le dire, que je vais dire 13 épisodes quand même. Je vais totalement
Il y a comme deux épisodes que tu as décidé d'oublier. On se demande c'est lesquels.
Mais... Ouais, il y en a un que c'est l'été, l'oubli, donc en partant, on peut l'oublier, même si c'était quand même assez chouette.
Lequel?
Celui avec Sarek. Que Michael Burnham essaie de retourner voir.
Oui.
Je le trouve super correct, cet
épisode. Moi aussi. Trouvé super bon.
Sur les
aussi.
Mémoires, tout le réprimé qu'il y a autour du personnage. Ouais, oui. Ben, en fait, je pense qu'il y a comme deux types de catégories d'épisodes. Ben, en fait, non, il y en a plusieurs. Bon, toute personne qui fait deux catégories d'affaires est vouée à l'échec de toute manière. Là. Il y a deux genres de personnes. Il y a personne qui fonctionne.
La binarité fonctionne.
Ouais, non, vraiment pas. Là. Mais, bon, t'inquiète. Où en étais-je?
La binarité, les deux types d'épisodes.
Ça, c'est où est-ce que tu viens, hein?
Mais t'as quand même raison, Jean-Michel, qu'avant le temps des fêtes, il y avait moins, on voyait moins encore où tous les éléments s'en allaient.
Oui,
il
oui.
Il y avait quand même ça.
C'est ça, je veux dire, c'est qu'il y avait comme une parcimonie dans la saison entre les épisodes qui étaient vraiment des épisodes qui venaient fonctionner dans une continuité plus grande. Mm-hmm. Donc, cet épisode-là de Sarek est, en tant que fan, extrêmement agréable parce que tu essayes de twister un peu le temps pour comprendre comment Spock a une demi-sœur, puis nanana, tu sais. Et t'as les autres épisodes qui fonctionnent beaucoup plus pour comme la longue diégèse des 13 épisodes, qui est quand même, au final, tous les éléments sont bien placés pour faire à moitié la télésérie d'origine, puis à moitié un peu qu'est-ce que L. Ron Hubbard, qu'est-ce que j'allais dire, Ronald D. Moore, pas loin, faisait avec Battlestar Galactica.
C'est exactement. Vrai.
Et pour ceux qui rentrent dans la série pour leur première fois, l'épisode l'été où on découvre comment ça règle, comment les Vulcains fonctionnent est quand même très intéressant, ça va être beaucoup mieux comprendre.
Ça s'appelle l'été?
Il me semble.
Non, mais c'est parce que ça a de l'allure, parce que c'est...
Elle est
c'est
ça.
C'est exactement. L'été en anglais et en français.
Et ainsi de suite. Fait que exactement. Fantastique.
Ouais. Mais parlons-en, justement, des liens entre la nouvelle série Discovery et les séries dont on a parlé il y a deux semaines, les six séries qui composaient...
Les cinq séries.
Ouais. On est rendu à six?
Non, mais je fais une blague comme si
comme si.
Sorry about that.
Je comprends pas bien, mais je comprends.
Ça va être mêlant pour les gens qui écoutent ça.
OK, il y a six séries.
J'ai chaud et j'ai un café. C'est ce qui va...
Réécoutez l'émission d'il y a deux semaines. Si jamais Jean-Michel vous mélange, c'est super clair là-bas.
Je pensais que j'étais là pour ça.
Nous mélanger?
Non, mais en même temps, c'est une série qui mélange énormément. Il y a des personnages qui voient le futur grâce à des sortes de routes de champignons, je veux dire, en partant. C'est assez délirant.
Ouais. On a Kyo en studio, n'oublions pas.
On a Kyo en studio, donc on peut toujours manipuler le temps et l'espace. Mais ce que j'ai trouvé vraiment génial avec Discovery, c'est la manière dont, justement, ça s'insère dans le canon. Il y a des éléments qui étaient plus ou moins appréciés par les hardcore fans qui trouvaient justement que le vaisseau était trop technologiquement avancé, les problèmes avec l'androïde, comment on va s'insérer avec Spock qui a une demi-sœur, comme tu disais, ce genre de truc-là. Et j'ai trouvé à la fois les clins d'œil à la série originale super intéressant et aussi la manière dont justement ces digressions technologiques-là au sein du canon sont expliquées par Jean-Michel?
Il écoutait pas.
Il suivait, c'est des bons tests.
Comment on explique les digressions technologiques? Je te le donnais parce que c'est toi qui m'as fait réaliser ça. La section...
La capitaine te demande ton aide, Jean-Michel.
First officer.
Ouais, je suis first officer. Non, pas pantoute.
Mais oui,
clairement
oui,
first officer.
Clairement, là.
OK.
Il est qui, en fait?
Mais vous l'haïssez, il y a juste Catherine qui aime les first officers. Bonjour, Catherine.
Mais non, moi, j'aime tous les first officers. même incluant Will Riker. Allô, Catherine. Par le fait que c'est justement, en fait, Discovery est un vaisseau qui appartient à la section 31 qui est...
Je voulais que tu le dises.
Voilà. On attend la section 31 qui est l'espèce de special ops de Starfleet qui est cachée et qui a nécessairement des pouvoirs technologiques plus avancés.
Ouais.
Et c'est canon. Personne ne peut dire que ça ne l'est pas.
Non. C'est, non seulement c'est canon, c'est mentionné d'entrée de jeu. C'est
absolument.
Plutôt ça
c'est
qui est important.
C'est établi dès le troisième épisode.
Dès le premier épisode, en fait. Dès qu'elle arrive sur le vaisseau, il y a un black badge.
Oui, c'est ça. Donc, le troisième épisode, celui où elle arrive sur Discovery.
Ah oui, OK. OK, pardon.
Ouais. Ah, nia. Et donc...
C'est pour ça qu'il en manque deux. C'est parce que... Ben,
c'est ça. Tu commences au troisième épisode. Début,
exact. Donc, je suis prête à accepter les digressions genre l'androïde. Parce qu'on a essayé de... puis j'ai hâte de voir s'ils vont l'expliquer dans la saison 2, parce qu'honnêtement, ça m'a vraiment perturbée. Parce que pour moi, Data est l'android OG. OG android.
C'est vrai. Ben, si tu me permets, je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à ça. C'est drôle, ça m'a jamais passé par l'esprit que c'était un android. Je trouvais que c'était quelqu'un qui ressemblait beaucoup plus à Freezer dans Dragon Ball. Qui est une version extraterrestre.
Mais c'est vrai que c'est quoi le rôle de ce personnage-là, déjà, à part qu'il est là, mais j'essaie de me rappeler ce qu'il fait à part être membre de l'équipage, mais je me souviens pas d'aucun.
C'est un Ridge Officer.
Mais ça peut être une grosse calculatrice d'attitude, là. Mais... Data, c'est vraiment le simulacre par excellence.
Mais non, parce que, écoute, dans un des derniers épisodes, elle est le command officer sur le bridge pendant que Saru est parti. Okay. Fait qu'il faut quand même qu'elle ait comme un grade assez élevé et aussi qu'elle ait un minimum d'intelligence qui est pas une calculatrice, là.
C'est ça qu'elle a parlé et tout.
Est-ce que ça pourrait être le vaisseau? Parce qu'on sait que le vaisseau a toujours une voix. Est-ce que ça pourrait être juste, tu sais, comme c'est elle le pilote automatique?
Oui. Tu
l'accepterais-tu?
Oui.
OK, bon.
Oui, je l'accepterais.
Okay.
Mais en même temps, il faut quand même se dire que l'ordinateur des vaisseaux pré-Enterprise est pas nécessairement aussi avancé que ça, mais je l'accepterais pour un Section 31, comme un vaisseau Special Ops. T'sais.
OK.
Je pense que c'est comme acceptable si...
Ah, tu vois, moi, c'est plutôt... j'irais plutôt pour l'inverse. Le fait que la technologie étant plus primitive, le motherboard est externe.
Incarné,
ouais. C'est quelqu'un qui va... Excuse-moi, un vaisseau, est-ce que tu peux rentrer le FTL drive? Ah oui, OK, je t'arrange ça. Puis là, elle marche, puis elle s'en va sur la console, puis elle le fait, tu sais.
Uh-huh. Non, ça fait du sens. Je trouve ça intéressant. Je sais pas...
Je veux ton... Tu sais, je cherche ton approbation beaucoup.
Mais c'est correct, je suis ton capitaine, c'est pour ça.
Ah oui, makes sense. Ouais.
Non, c'est ça.
Peux-tu juste poser une question avant, juste pour être sûr qu'on ne dévie pas trop? Il me semble... C'est pas qu'on connaît à peu près rien de son passé, donc je vois pas le problème qu'il y ait une demi-sœur qui n'en avait pas parlé. Il me semble que dans la série originale, il parle jamais de son passé.
Dans la série originale, on en parle très peu, c'est vrai. Dans les films, c'est un petit peu plus abordé. Mm-hmm. Non, il y a pas. Je pense qu'il y a pas de problème à proprement parler que Spock ait une demi-sœur. Ça fonctionne, je veux dire, chronologiquement parlant. C'est juste que comme ça a jamais été mentionné, je pense que les fans essayaient de voir où Michael Burnham s'insérait dans la vie de la famille Spockienne. Mais je pense pas que ça pose problème à proprement parler. Ce qui posait problème technologiquement parlant, c'était l'état avancé de la technologie qui était dans Discovery, qui se place plus ou moins bien en relation avec justement où on se trouve dans la chronologie diégétique, ce qui est avant la série originale.
Moi, ça, je comprends tout à fait.
Le fait qu'il y ait des téléphones à câble dans la série originale trahit un peu.
Mais en même temps, on s'entend que comme c'était les années 60. Là,
non,
mais
c'est ça,
mais je trouve ça drôle parce que c'est exactement le même problème. Je vais aller dans mes trucs à moi. Dans Alien et Prometheus, Prometheus et Alien Covenant se passent avant Alien, mais c'est comme une espèce de clash technologique entre la technologie réelle disponible au moment de faire le film, c'est-à-dire comme dans les années 80 ou 70, et le film qui est fait comme en 2012 ou la série qui est faite en 2018, où on veut comme... Il y a comme pas tant de volonté de reproduire la technologie archaïque qui était utilisée à l'époque dans Original Series ou dans Alien. Puis c'est comme... C'est récurrent assez, mais ça a jamais vraiment été justifié ni pour un ni pour l'autre.
Oui, mais encore en termes de défense dans l'imaginaire interne, Maxime Raymond m'avait souligné qu'est-ce qu'on appelle le théorème de Royal Tenenbaums, l'idée que on est toujours en train d'écouter quelque chose via le point de vue du personnage principal. Dans Royal Tenenbaums de Wes Anderson, le film s'appelle The Royal Tenenbaums parce qu'on voit le film du point de vue de Gene Hackman, qui est Royal Tenenbaum. Donc, quand il regarde son fils Ben Stiller, puis que ses deux enfants de Ben Stiller ont l'air des petites versions de Ben Stiller, le pari est qu'ils n'ont pas l'air de ça dans la vie. C'est juste le grand-père qui regarde ses petits-enfants et ils sont comme, regarde comment c'est des copies conformes de mon fils. Et que avec cette interprétation scopique-là, ben c'est un peu normal que Original Series, on la voit, tu sais, qu'elle soit ultra pimp parce que tu vois la perspective de William Shatner qui vit dans une lava lamp. C'est que quand tu continues, tu sais, il y a une espèce de rigueur, mais une forme de noblesse mm-hmm. dans Next Generation, suivi d'une espèce d'acceptation et d'une ouverture qui vient avec des DS9, et qu'on peut faire des lectures de Star Trek via l'interprétation du personnage principal. Puis ici, ben, Burnham est méticuleuse, calculatrice, un peu dark. Tu sais, ça peut fonctionner de cette manière-là. Puis bon, j'aimerais remercier Maxime Raymond d'avoir ouvert ça.
Mais c'est aussi que ce que ça provoque, mais là, c'est vraiment juste en termes d'adaptation formelle et d'effet comme de diégèse pour essayer d'avoir un effet de cohérence, c'est que ça provoque des effets d'anachronisme qui font un peu résister l'immersion dans la série, ce qui fait que comme toute la technologie qu'on voit, elle est pimpée, là, c'est comme c'est vraiment comme flashy, puis c'est vraiment très actuel comme technologie parce que ça ressemble beaucoup à qu'est-ce qui se fait dans le cinéma de science-fiction en général, mais ça fait qu'on a de la à faire le lien entre les deux séries parce que tu dis il y a des téléphones à câble dans Original Series, mais là il y a comme des androïdes puis ça fait plus de sens. Fait que nécessairement comme ton attention va être portée vers le essayer d'évaluer la cohérence entre les éléments technologiques parce que la technologie est visuellement fondamentalement très différente. Fait que je pense que ça provoque des résistances dans l'adaptation et dans le phénomène du reboot en général quand il y a comme cet anachronisme qui survient. Puis dans Alien, c'est très évident quand dans Alien Isolation, la technologie est la même que en 1979 et la réception est vraiment meilleure.
OK.
Mais tu vois, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Je veux dire, j'ai pris pour acquis qu'il allait pas avoir des téléphones à câble, puis des décors en carton, là. Comme, tu sais, j'ai pris pour acquis que si on va faire un Star Trek en 2017, on va le faire avec tout ce qu'on s'imagine aujourd'hui en 2017 qui représente ce que la Fédération aurait l'air dans ces années-là. Tu sais, pour moi, c'était évident que ça allait être comme ça. Fait que c'est peut-être pour ça que ça m'a moins dérangé.
Mais ça allait quand même porter son attention vers l'évaluation
exactement.
De tout ça.
Absolument. Puis en même temps, c'est quelque chose qui arrive même pour Star Wars. Je veux dire, quand ils ont fait la trilogie, il y avait exactement le même reproche qui a été fait, qu'on a l'impression qu'on est beaucoup plus en avance alors qu'on est à peu près 40 ans dans le passé.
Alors que Rogue One, par exemple, on fait beaucoup d'efforts pour essayer de reproduire exactement la même technologie.
Tout à fait.
Ouais, puis mais ça c'est vraiment juste en termes de la forme de l'adaptation, mais en termes diégétique, Discovery a fait vraiment des efforts pour rester cohérent tout en innovant. Puis c'est ça, il y a des références et justement le punch de la fin, méga spoiler, si vous avez pas déjà entendu mon autre spoiler d'avant, ils vont rencontrer le capitaine Christopher Pike qui est le OG capitaine pré-Kirk du Enterprise. Donc on voit comment ça s'insère justement dans la diégèse, mais là en tout cas ce qui me chicote un peu, c'est qu'officiellement la guerre contre les Klingons est terminée. Je pensais que Discovery allait être une série sur la guerre contre les Klingons. Moi c'est un peu ça qui me chicote, j'aurais voulu avoir plus d'informations sur comment ça s'est passé en dehors de Discovery, parce que là en fait ce qui se passe c'est que Discovery est un peu isolé dans tout ça. Justement par diégétiquement c'est un vaisseau qui est spécial.
Non seulement qui est comment?
Spécial. Ça s'écrit avec un i, il n'y a pas de accent aigu. Et donc, il y a ça d'un côté, et d'un autre côté, il y a, ben, on va juste les envoyer dans une autre dimension. Ça les isole encore plus. On ne peut pas être plus isolé que ça. Fait que je trouve qu'on n'a pas. Je pense qu'on n'a pas bien traité. C'est pas exactement ça que je voulais dire. On n'a pas assez exploré la question de la guerre contre les Klingons qu'on m'avait promise.
Ça prendrait presque un spin-off pour justement traiter de ça, comme la vie plus régulière qu'il y avait. Parce qu'au final, Discovery part dans toutes sortes de directions pour aborder la dualité, l'identité et d'autres choses. Mais effectivement, il passe à côté de ce moment-là qui était quand même super important.
Exactement. Puis moi, en fait, puis je pense que c'est un bon segue pour aller vers notre deuxième section d'émission, qui était de parler des thématiques qui ont été abordées par Discovery. Des thématiques, encore une fois, qui sont super philosophiques et qui prêtent bien à la réflexion, comme on parlait il y a deux semaines, mais qui sont super actualisées puis super pertinentes aujourd'hui, la dualité est définitivement centrale à l'expérience de Discovery. Même dans tous les personnages, il y a une dualité qui est super présente. On parlait de Burnham, puis qui est en fait le personnage principal. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour dire que pour la première fois, le personnage principal d'une série de Star Trek n'est pas un capitaine? Premièrement,
oui.
La première, puis bon, Burnham n'est pas la première femme qui est le personnage principal, mais est la première femme noire qui est le personnage principal d'une émission de Star Trek. Non, c'est faux! C'est la première femme noire, c'est pas la première personne noire.
Non.
C'est Cisco.
Avery Brooks.
Donc,
qui est the smoothest motherfucker around. Juste faites attention si vous le voyez en personne, c'est très très dangereux. Il soigne d'un charisme et d'une confiance en soi extraordinaire.
J'en doute pas.
À un point tel qu'il peut à lui tout seul humilier un crew entier d'une série antécédente.
Oh wow!
Si tu prends toute la gang de... Ben moi je l'ai vu à côté de plusieurs membres. Excuse-moi, c'est une drôle de parenthèse, ça sent rien. C'est le café qui embarque. si tu le mets à côté des original series, ils ont tous l'air des nains dépressifs. Puis lui est à côté, puis il y a comme... Parce que bon, vous savez qu'il a enregistré des albums de jazz aussi.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a un foulard, puis il y a rien de plus classique que Avery Jones. Avery Brooks.
Avery
Jones.
Brooks, ouais.
Je l'ai mélangé avec Quincy Jones tellement qu'il est smooth. Oui, qu'est-ce qui vient de se passer dans ma tête? Dualité, tout le monde.
Dualité. Donc, oui, en effet, la dualité est un des thèmes centraux de Discovery, à la fois dans le traitement au niveau scénaristique. Donc, on a, le Discovery face au reste de la Fédération. On a la Fédération face aux Klingons. On a les personnages à l'intérieur d'eux-mêmes avec le personnage principal, Michael Burnham, qui est une humaine qui a été élevée par les Vulcains. Donc, elle a été élevée en mettant la logique de l'avant. Mon Dieu, j'ai figé un peu. Et elle doit reconnecter, justement, avec son humanité, puis apprendre à forger des relations avec d'autres humains, ce qui est super intéressant. On a aussi Ash Tyler, qui, encore une fois, spoiler, est un humain qui a été génétiquement
non, en fait, c'est engineered. Une carcasse Klingon qui s'est fait télécharger une conscience humaine.
OK. En tout cas, c'est un hybride mélangé avec beaucoup
non,
de tortures.
Non, ils ont pris un Klingon, puis ils l'ont scié jusqu'à temps qu'il ait la forme humaine, puis après ça, ils ont pris ce qui restait de la conscience de l'humain qui avait torturé, puis ils l'ont mis dans le sarcophage Klingon.
OK, tu vois, moi, je pensais que c'était le contraire.
Ouais, moi aussi, je pensais qu'il avait enlevé tous les organes du Klingon, puis il l'avait mis dans le corps de... et transféré sa conscience de Klingon dans le corps de Ashley.
Mais non, mais c'est vrai que ça fait du sens parce qu'ils disent, quand ils l'évaluent, ils disent qu'ils ont genre tout scié ses os, puis blablabla. Uh-huh. So it makes sense. Que, comme...
En même temps, ils ont pulvérisé les deux, puis ils les ont mis ensemble.
Voilà, c'est ça.
C'est duel dans tous les cas.
Voilà.
En fait, c'est plus important que ça. Pardonnez-moi, je vais prendre une petite pause encore. Bon. Il y a un problème avec les Klingons qui découle de la grande distance qu'il y a entre la Original Series et Next Generation.
Mm-hmm.
Dans les épisodes où on a les Trials and Tribbles, Trouble with Tribbles, Trials and Tribulations, j'en ai tout nommé. Je les ai tous nommés. Il y a, surtout dans celui de Deep Space Nine, un moment où Worf est dans l'Original Series. Et il y a un moment où il croise des Klingons. Cisco lui demande qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce gars-là. Puis Worf dit « I'd rather not talk about that ». Pour être capable de remplir ce gouffre interprétatif, parce que les Klingons de la série originale n'ont pas du tout la similitude des Klingons de Next Generation, Peter David a proposé le fait qu'il y a un eugénisme Klingon qui s'est opéré à l'intérieur même de l'Empire pour que les Klingons, pardonnez-moi, à l'intérieur même de l'Empire Klingon,
mm-hmm.
pour qu'ils puissent envoyer des ambassadeurs à la Fédération. Tu ne pourrais pas envoyer un Klingon full-fledged à la Fédération. Il ne fonctionnerait pas avec les moraux, avec les idéaux, puis avec toute l'organisation. Donc, ils ont dû biologiquement faire de l'ingénierie envers des propres Klingons pour être capables de les réduire dans leur force, d'augmenter leur intellect et la possibilité de contrôler leurs émotions pour qu'ils puissent avoir des skills diplomatiques nécessaires pour œuvrer dans la Fédération. Il est là, Ash Tyler. Il est entre les deux. Mm-hmm. C'est, à mon avis, la première expérimentation Klingon. Ici, peut-être plus.
C'est comme dans le vue de faire de l'espionnage.
Oui, c'est ça. Dans ce cas-ci, c'est plus de l'espionnage, mais pour aligner et pour que les Klingons puissent s'allier à la Fédération, il va falloir qu'il y ait des versions un peu plus domestiquées d'eux autres. Et c'est ceux-là, les Klingons qu'on a dans The Original Series et dans Next Generation, quand Worf arrive, ben lui, il est non pas un état brut, mais il est un domestiqué en train de se ré-ensauvager. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce d'incompréhension de ses origines et de tout le traditionnel. Bon, il y a aussi tout le truc de par rapport à l'adaption et ainsi de suite. Mais Worf est comme la seconde vague suite à cet eugénisme-là. Du moins, c'est comme ça que j'ai compris.
Non, mais c'est super intéressant. J'avais pas lu sur cette théorie-là du tout, mais ça fait beaucoup de sens.
C'était une théorie jusqu'à Discovery où ça s'est pas mal placé. Cette expérience laboratoire est possible maintenant. Ça fait que là, on est comme, bon, ça vient remplir le gouffre entre Original Series.
Absolument, puis ça explique cette espèce de changement radical-là qu'il y a entre les Klingons de The Original Series et de Next Generation, même si Worf est un des premiers à se joindre à ou le premier, même si je me trompe pas, à se joindre à Starfleet. Ça explique justement comment il y a eu cette espèce de partenariat solide établi entre la Fédération et les Klingons qui sont absolument à l'opposé de toutes les valeurs de la Fédération. Mmh. Et même plus tard, qu'il y a des Klingons et des humains qui se sont reproduits et qui ont des enfants ensemble, qui doivent vivre justement avec cette dualité-là, qui est aussi intéressante. Fait que je trouve que c'est une théorie super intéressante pour expliquer...
J'ai dit Peter David, mais ça se peut que ce soit pas lui. C'est Peter David qui a écrit plein de romans de Star Trek.
Je pourrais pas te dire.
C'est quelqu'un qui a écrit Hulk. Beaucoup. Fait que ça doit être Peter David.
On va dire que c'est Peter David, puis si c'est pas lui, on va le corriger dans la publication.
Merci. Vous m'excuserez si je me suis trompé.
Oh, c'est correct. Mais...
Je ferme ma parenthèse. Go!
Dan!
Oh shit, Steph a disparu.
Bon, qu'est-ce qu'on va faire?
C'est ça qui se passe. Le café.
Non, mais c'est Q, elle peut juste. Non, c'est ça, comme, elle peut juste partir et revenir dans la civilisation.
Roxane, tu permets que je parle juste encore une fois de l'ancienne série, la série originale. En fait, juste pour parler d'une univers parallèle, il me semble, vous me corrigerez, vous êtes plus tricker que moi, si je me trompe, mais il me semble que la première univers parallèle est dans saison 2, épisode 4, Mirror, Mirror, où on a vraiment ce double univers-là. Dans le fond, il y a une tempête. Ionique qui fait que Kirk, Scotty, McCoy et Uhura se téléportent dans un univers parallèle sur un vaisseau de l'Empire terrien dans lequel il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver par la suite dans Discovery, par exemple la salle de torture, toutes les gestuesses impériales, les affrontements pour devenir capitaine, ce jeu-là un peu de théâtralité forcée, donc toutes des choses quand même très intéressantes. Et également, qui se termine aussi avec un discours de Kirk qui, selon lui, parle de l'échec inévitable d'une logique impériale. Forcément, toute civilisation passe par un état de barbarie, de noirceur, et ça finit par donner une révolte par un état de lumière, sur lequel finit d'ailleurs un peu Discovery. On a cette impression-là que toutes les différentes planètes ont passé par cette ombre-là. Les Klingons viennent aussi d'y arriver en s'unissant à nouveau pour la pureté Klingon. Donc, il y a cette idée-là d'union.
Ah oui, oui.
Oui, absolument. Puis, c'est tout à fait juste. Moi, je tiens juste à souligner le goatee de Spock dans cet épisode, qui est absolument formidable et qui a donné lieu à nombre de références en culture populaire liées à... Tu sais, la evil version of ourselves a toujours un goatee.
Ben oui. Oh, et le darkest timeline dans Community.
Exactement. Ah, oui. Exactement, c'est à quoi je faisais référence. Ce que je trouve intéressant... c'est que on en a parlé un petit peu sur Facebook avant l'émission de cette idée-là.
Hein?
Ben oui.
On fait ça.
Tu suis pas nos conversations, Jim.
Sur la page officielle de l'émission.
Ah.
Oui.
Juste par là.
Et on avait parlé du fait que peut-être que ces deux univers parallèles-là où il y a l'Empire qui est la version inverse de la Fédération, dans le fond, celui dans lequel se retrouve le Discovery et celui du Enterprise serait en fait le même Empire.
Exactement.
Puis, comme tu avais dit, montrant ici que le discours de Kirk à la fin, qui Jim nous hoche la tête en nous disant non,
freak out, c'est tout.
Ah, OK. Et disant que, en fait, peut-être que Kirk, son discours de fin qui est super beau et utopique et qui correspond tout à fait aux valeurs fondamentales de Star Trek, aurait peut-être eu tort.
Bien sûr.
Parce que, justement, à la suite de la chute Philippa Georgiou, de la méchante Philippa, il y aurait quand même eu une organisation avec Lorca, une poursuite des objectifs de l'Empire, et ça viendrait prouver que, dans le fond, Kirk avait tort de dire qu'inévitablement allait naître une société utopique de la chute, justement, de la chute d'un empire comme ça.
Bien sûr, surtout que la démonstration de Kirk est assez simple. Grosso modo, il dit que ça n'a aucun sens, cette logique-là. Donc, Spock est dans une société qui n'a aucun sens. Donc, il devrait faire la révolution. Grosso modo, en trois lignes, il propose à Spock de renverser entièrement une vision du monde pour amener la bonne vision du monde, la sienne.
Ouais, mais de toute façon, je veux dire, il n'y a pas grand-chose que Kirk dit qui est si stable et logique que ça, mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'on l'aime, de toute façon, Kirk. C'est pour sa théâtralité, c'est pour le over-the-top acting, c'est pour le double fist punch. Fait qu'on lui en veut pas tant que ça.
Ben, pour le défendre quand même, parce que j'ai écouté Star Trek, la série originale, durant mon enfance, puis quand t'es enfant, c'est quand même une belle figure paternelle. Tu remarques pas qu'il joue à ce point-là mal quand t'es enfant.
Je suis pas sûr que c'est une belle figure paternelle, ouais. Si tu regardes la manière dont il traite les autres autour de lui, c'est sûr. Semble, mais...
Enfant, j'insiste sur le fait que... Enfant, j'aimais beaucoup Batman à jamais aussi, je veux dire, ça fait partie de l'enfance, mais il y a ce côté-là d'être une incarnation de la jeunesse, à une même époque, par exemple, que Kennedy était président aux États-Unis. Donc, cette idée-là que la jeunesse peut changer les choses, c'est quand même très inspirant pour des jeunes enfants.
Absolument.
Mais, tu sais, en side note, là, Kirk, il school super bien le jeune Charlie dans I, Charlie sur l'objectivation des femmes. Là.
Oui.
Il est vraiment comme, tu peux pas faire ça. C'est comme dans le deuxième ou troisième épisode de la série originale.
Oui, c'est juste qu'il suit pas vraiment ses conseils.
Ouais, ça,
c'est pas Kirk qui suit pas ses conseils, c'est William Shatner qui suit pas ses conseils. Je pense que c'est pas nécessairement Kirk.
Il est gone meta.
Mais non, c'est ça, je trouve ça super intéressant de voir à quel point Discovery joue sur les idéaux fondamentaux de la Fédération. On a toujours eu la Fédération qui a été présentée comme cette espèce d'idéal de pureté utopique là, comme l'espèce de panthéon de la liberté, de la, tu sais, de la diversité, de la culture du respect.
Uh-huh.
Et là, on arrive avec, dans le tout premier épisode de Discovery, l'idée que peut-être que, en fait, ce que la Fédération essaie de faire, c'est d'imposer une hégémonie culturelle en essayant de faire joindre toutes ces cultures-là à la Fédération, en essayant de, même quand on disait, de les hybrider pour devenir quelque chose qui s'insère bien dans un tout uniforme. Et c'est comme un peu contre ça que les Klingons se battent au départ.
Absolument.
C'est un peu triste que l'idée ait un peu été abandonnée pour le reste de la série. Je trouve que ça n'a pas été exploité.
Ça aurait été un sujet vraiment intéressant à exploiter, vraiment. Surtout dans la période politique actuelle où, avec la montée des néo-nazis et compagnie, on essaie de comme atteindre une culture qui est homogène, mais qui est nécessairement blanche et compagnie.
Exactement.
Ça aurait été intéressant d'avoir une série qui fait des échos avec ça. C'est sûr qu'avec le Terran Empire, on fait des échos encore plus explicites parce que c'est littéralement des nazis. Là.
Ouais.
Mais comme il y avait quelque chose d'intéressant avec les Klingons, on avait le point de vue des dominés plutôt que le point de vue des dominants.
Oui, mais en même temps, il y a un fort sous-texte dans les deux premiers épisodes, puis là, je parle essentiellement le téléfilm d'ouverture, c'est comme ça que je le traite, de comme j'ai déjà mentionné en nom, « Make Quonos Great Again », là.
Ouais, aussi.
Il y a beaucoup de ça dans les deux premiers épisodes, où l'Empire Klingon est vraiment vu comme un pastiche à peine voilé de qu'est-ce qui est en train de se passer.
Mais
avec
en même temps, j'ai trouvé que ça légitimait un peu leur position en ce sens que la Fédération, on voit pourquoi les Klingons pourraient trouver que les idéaux de la Fédération vont nécessairement les empêcher de vivre les leurs.
Absolument.
On voit comment on peut vouloir à tout prix défendre sa culture et le pousser à des limites qui sont presque religieuses,
littéralement religieuses
dans le cas des Klingons. Pour moi, ça a été des épisodes qui m'ont fait voir que peut-être que les Klingons n'allaient pas être les méchants dans cette histoire-là.
Absolument.
C'est sûr. Surtout que ça commence avec leur voix. C'est quand même assez génial que Star Trek commence avec ce discours-là. Surtout que je l'ai écouté en streaming, donc je n'avais pas les sous-titres. J'avais juste leur sorte de parler qui a de l'air assez belliqueux quand tu fais juste les entendre. Et à la finale, avec « Nous venons en paix », qui nous amène sur Burnham et son capitaine.
Oui, oui, mais qui, ce qu'il mentionne avant, c'est « Et ce sera l'expression d'une ultime arrogance, non, exactement. Become in peace ».
Exactement.
Cette phrase-là, elle est à mon avis, d'être capable de contredire cette phrase-là qui a toujours été la clé passe-partout de la bienséance humanitaire, c'est tout un exploit, là.
Non, c'est clair. Et surtout, en plus, je me rappelle pas si dans le premier ou deuxième épisode, t'as un flashback où tu vois l'éducation de Michael Burnham, dans lequel elle a les fameuses questions-réponses des Vulcains, réponses très courtes, et on lui demande notamment c'est quoi la planète Kronos, et tout ce qu'elle a comme information, c'est inamical à l'égard de la Fédération. Mm-hmm. Je veux dire, pour un peuple qui est censé aller vers la compréhension, vers l'intégration de d'autres cultures, c'est vraiment très court.
Il faut quand même noter, à la défense de la Fédération de cette époque-là, que c'était... Moi, je défends la Fédération. C'était encore... Je veux dire, c'est quand même avancé depuis la série Enterprise ici. On a quand même eu des bases de la Fédération qui sont posées, mais ça va énormément se raffiner. Je veux dire, il y a quelque chose comme une centaine d'années qui sépare The Original Series et The Next Generation. Ça va se raffiner énormément la manière mm-hmm. dont ils vont avoir des relations interculturelles et peut-être justement se rapprocher, puis là, on s'en va en philo-politique parce qu'on est là déjà.
Non, c'est clair.
Peut-être se rapprocher d'un idéal de multiculturalisme qui est plus proche de la pensée de Rawls et qui vise le pluralisme et non pas l'homogénéité au sein d'une espèce de gouvernement. En fait, pas nécessairement un gouvernement, je ne vais pas expliquer en explicitement Rawls là, ici, mais une organisation mondiale. Tu sais. Ça se rapproche peut-être un peu plus de ça dans cette espèce de respect du pluralisme-là qui était peut-être pas nécessairement l'idéal de la fédération encore naissante-ish à cette époque-là, diégétiquement. Là.
Puis aussi, ils sont dans un contexte de peur absolue, je veux dire, la Terre risque d'être éradiquée. C'est sûr que quand on est en contexte de peur, on réagit pas nécessairement bien. C'est vrai que Volzé, il était en train de bafouer toutes les principes de Starfleet et de la Fédération en voulant faire un génocide, eux aussi, avant que les Klingons fassent un génocide de leur propre planète. Donc, il y a cette idée-là. Quand on a peur, on réagit impulsivement, surtout qu'il me semble qu'ils sont à une semaine vraiment de détruire la Terre. Donc, on prend des réactions rapides, on essaie de trouver la meilleure solution, qui est souvent pas la meilleure, justement.
Absolument. Puis ce qui est intéressant, c'est... au départ, dès les premiers épisodes, la décision de Michael Burnham de faire une mutinerie et d'attaquer directement les Klingons est basée sur la logique de ce qu'elle a appris des Klingons.
Des Vulcains.
Ce que les Vulcains lui ont appris des Klingons.
OK, oui, pardon.
Et on se rend compte, en fait que, encore une fois, puis c'est un peu toujours ça, l'espèce de discours de Star Trek, que la logique seule... peut pas nécessairement régler tous les problèmes, on peut pas nécessairement se baser uniquement sur la logique pour avoir des relations avec les autres cultures, des relations harmonieuses et respectueuses, parce que la logique peut pas rendre compte, justement, de ces différences-là de manière, en fait, typiquement logique.
Non, c'est clair, surtout que c'est le titre du premier épisode, Salutation Vulcaine, c'est que tu tires le premier avant ton ennemi parce que tu as estimé qu'il y avait plus de chances qu'il te tire dessus qu'autre chose. Donc, c'est sûr que tu coupes toute communication parce que logiquement, tu as un pattern qui le place comme ennemi.
Exactement.
D'ailleurs, Michael Burnham, à la fin du deuxième épisode, quand elle a son procès, a écrit elle-même qu'en essayant de faire pour le mieux, en essayant de suivre tous les principes, explique toute sa ligne de conduite, toute son éducation, elle a toujours essayé de faire pour le mieux, mais elle s'est ramassée à être l'ennemi. Et de toute façon, la guerre est advenue.
Exactement.
Puis chaque forme de logique est aussi située culturellement. Là, donc, c'est sûr que ton schéma logique est formé par ton entourage, par ta culture. Fait que nécessairement, c'est impossible d'utiliser seulement la logique pour comprendre les relations interculturelles.
Oui. Surtout qu'on voit avec l'été que le père de Michael Burnham, son père adoptif, a fait le mauvais choix, logiquement.
Oui, absolument. Puis, je veux dire... Ben, non? C'était le mauvais choix.
T'es pas d'accord, Jean-Michel?
Ben,
vas-y.
Non, parce que s'il n'y avait pas fait ce choix-là, moi, je suis la diégèse.
Ok, oui, je comprends.
Ouais, mais quand même, on voit. En fait, je pense que par mauvais choix, on voulait dire que Sarek considérait que c'était.
Non, c'est ça.
Qu'il n'aurait pas dû se faire ce choix-là.
Ok, oui, mais nous, on sait qu'il a fait le bon choix.
On sait qu'il a fait le choix qui a mené au fait que Michael Burnham soit là.
Au meilleur choix, même si pour lui, c'était un mauvais choix.
Oui, je sais, mais s'il avait choisi autrement, ça nous aurait nié Spock au grand complet, là.
Ça, c'est vrai.
C'est pour ça. C'est plutôt dans le long run. Nous autres, on le sait qu'il a fait le bon choix. Lui, il va vivre avec le fardeau d'avoir choisi Spock au-delà de Burnham, mais c'est quand même important.
Non, je suis d'accord, absolument. Ouais. Mais c'est intéressant de voir comment même...
Non, en fait, j'ai peut-être tort.
Non, mais je pense pas que
c'est juste parce qu'on
n'a
pas accès à cette ligne de temps-là que je suis pas capable d'avoir les...
Exactement.
Je n'ai pas les informations.
Ben, je pense que c'est très duel, justement. C'est très dur. C'est ce qu'on voit avec Discovery. C'est très dur d'estimer tous les futurs possibles. Ouais. C'est pour ça que quand on est obligé de donner une réponse précipitée, on a des bonnes chances de se tromper. Étant donné qu'on n'a pas justement toutes les timelines, c'est très dur d'hypothétiser tous les mondes possibles.
Excuse-moi, Megan a fait le signe international de l'évanouissement.
Ça, vous avez, Non, je pense que Megan commence à avoir un peu de fièvre.
Oh, my stars and goddess. Ah. Mais en même temps, il y a quelque chose de très... Bon, j'ai l'impression qu'avec la première saison, on a un peu eu à valser avec le plan original de Brian Fuller, mm-hmm. chose qui n'est plus le cas puisqu'il a claqué la porte. C'est réglé pour lui. Ce qui reste du potentiel de Discovery, c'est cette idée de... pour moi, ça vient toujours avec le comment est-ce que les gens interprètent Superman. T'sais, Superman est un personnage plate parce qu'il est déjà arrivé à l'utopie. Il est déjà arrivé à l'aboutissement de l'être humain. Puis c'est la même chose essentiellement avec un regard contemporain sur l'univers de Star Trek. C'est de dire, comment est-ce qu'on va faire une histoire dans un monde où les conflits sont réglés? Comment est-ce qu'on est capable de raconter une histoire d'un monde qui est... cohérent, uni et compréhensif et inclusif, quand nous autres, on n'est pas capable de faire ça sur notre Terre. Ben, c'est là où j'ai l'impression que... j'allais dire Voyager. Oui, pourquoi pas.
Aussi.
Discovery est très important parce que ça va nous permettre de... d'écrire un manuel d'instruction pour être capable de se rendre à cette utopie-là.
Oui, exact.
C'est le long... périple, la longue aventure, le trek de Discovery, c'est d'arriver au point où est-ce que l'univers de la Fédération est harmonieuse et respectueuse.
Absolument, puis c'est le pari que Enterprise avait commencé et a été un peu...
Ouais, mais en même temps, Enterprise n'aurait pas pu s'y rendre.
Non, absolument c'est pas. Ça. Ce que je veux dire, c'est que Enterprise a commencé à essayer de mettre les bases d'une fédération ou de comment la fédération allait s'arranger. Et en effet, je pense que Discovery s'en va dans cette direction-là à 100%. Tu sais, comment on arrive à cette utopie-là qui est plus ou moins fonctionnelle dans Next Generation, Voyager, Deep Space Nine? Ouais. Comment on se rend là? Tu sais? Puis je pense qu'ils ont déjà mis des bonnes bases parce qu'ils ont, en fait, mis de l'avant le fait que la fédération et pas nécessairement l'organisation si parfaite que les fans de Star Trek connaissent.
Tu parles dans Discovery ou au complet?
Dans Discovery.
Ok, c'est correct ça.
C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cela dit, je trouve que la finale, le dernier épisode, malgré ce que tu as moins dedans, je trouve que l'exposé de Burnham à la fin, quand il est devant probablement les Nations Unies, en tout cas l'équivalent, est particulièrement lumineux parce qu'on a vraiment tout l'esprit de Star Trek. Oui. Cette idée-là de dire non absolu à la peur, qui est un très beau discours. L'épisode commence comme ça, genre qu'est-ce qu'on doit faire face à la peur, c'est quoi la réponse adéquate. Mmh. Et la fin, à mon sens, c'est parfaite parce qu'elle permet de faire le pont avec la série originale.
Non, absolument. Moi, j'ai pas aimé le dernier épisode, mais j'ai adoré le discours final de Michael Burnham parce que justement, c'est une réponse à ce qui a été présenté dans la série jusqu'à présent. C'est-à-dire, OK, on vous a montré le dark side de la Fédération. Comment on répond à ça?
Oui, c'est ça.
Fait que j'ai trouvé que c'est une belle manière de clore la saison, puis j'ai hâte de voir comment ça va être un thème, j'espère, important dans la seconde saison. Traité différemment, sans aucun doute, parce qu'on n'est plus dans un climat de guerre, on est dans un climat qui est celui de rebâtir, recommencer. J'ai hâte de voir comment ils vont l'aborder. En fait, j'ai même aucune idée de ce qui va se passer dans la saison 2. L'espèce de cliffhanger qu'on a, c'est qu'il rencontre Christopher Pike, mais où on s'en va avec ça?
Est-ce que Spock est déjà dans l'équipage à ce moment-là? Vous le savez probablement plus que moi.
Je ne sais pas s'il va l'être là, mais il connaît Christopher. Il est sur le vaisseau de Christopher Pike.
Oui, je ne sais pas s'il est là depuis le début.
Non, c'est ça ma question. Je ne sais pas s'il va être là de manière effective sur, ouais, dans Discovery, mais
l'expression du visage de Burnham et de Sarek, on a l'impression qu'ils connaissent le vaisseau, donc j'avais l'impression qu'ils étaient déjà là puis qu'on allait le voir dans
peut-être. C'est sûr que diégétiquement, Spock a servi sous Christopher Pike sur le Enterprise. Est-ce qu'il va être là à ce moment-là? On ne sait pas où on se situe dans le timeline de manière assez précise pour le dire. Mais c'est vrai qu'avec l'expression de Burnham...
Je me demandais pourquoi il fait ce visage-là. Pour nous, c'est évident pourquoi, parce que c'est notre vaisseau. En plus, ils mettent la musique traditionnelle après.
Ah, ça, j'ai pleuré.
Clairement, c'est une trop belle manière de finir. Mais c'est ça, sinon, je ne vois pas pourquoi il se regarderait comme ça avec un sorte de regard. Surtout qu'on s'en va vers Vulcan, il pourrait avoir un conflit.
Et là, on pourrait avoir Zachary Quinto qui vient récupérer le rôle.
Ah, oh, j'aimerais ça.
C'est très important. En fait, Quinto fait de la télé maintenant.
C'est vrai. Il avait fait de la télé avant aussi. Là.
Oui, exactement. Puis c'est un personnage. En fait, l'acteur est vraiment rendu, tu sais, au détriment de plusieurs acteurs qui ont essayé de se réapproprier un personnage qui était déjà associé à l'acteur original, comme Spock et Nimoy. Quinto, j'ai l'impression, ont très bien fait sa transition vers Spock.
Moi, j'ai adoré.
C'est ça. Il s'accepte très très bien, pas comme Tom Welling, par exemple. Mais c'est drôle parce que. Tu soulignes beaucoup tes attentes envers les créateurs et les scénaristes, ainsi de suite. Mais pour ma part, j'ai moins d'attentes envers eux autres et plus d'attentes envers nous. Peu importe qu'est-ce que nous, en tant que public, parce que pour ma part...
Pas moi, personnellement.
Oui, toi aussi. Oui, mais je ne veux pas trop mettre de pression sur tes épaules, mais...
Non, mais je suis un capitaine, la pression...
Effectivement, puis tu accomplis tous tes défis. Oh, Dieu, c'est extraordinaire. Mais c'est pas... tout ça pour dire, c'est que c'est dans la réception que Discovery saison 2 va être importante, parce que peu importe qu'il l'aborde de fond ou pas, nous, on doit continuer à écouter cette télésérie-là.
Absolument.
Comme un manuel d'instruction vers l'utopie. Chose qu'on a absolument besoin en culture populaire actuellement. Les représentations utopistes sont extrêmement importantes pour nourrir l'imaginaire, mais le how-to, le livret d'instruction IKEA est, à mon avis, primordial. Puis, à une époque où Star Trek n'était pas en chantier, Discovery n'était pas en chantier, ça m'aurait brisé le cœur de voir une autre franchise venir se donner comme mission de décrire cette rampe-là que l'humanité doit prendre pour arriver à l'utopie. J'aurais trouvé ça très difficile que ça soit, par exemple, Supernatural qu'il fasse. T'sais. J'aurais comme juste « Oh shit, man, ça a tellement dû être un Star Trek. » Excusez, c'est un exemple que j'allais chercher dans l'idée.
J'essaie de voir comment ça pourrait fonctionner, puis non.
Dream it, live it, voilà. Bon, donc, il y a quelque chose de très... ils peuvent se planter, mais ils peuvent pas tant se planter tant et aussi longtemps qu'on est là pour lire les épisodes correctement. Puis c'est là où je...
Ou en faire une lecture qui corrige ce qu'on trouve qui a moins été bien fait.
Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que la lancée est assez bien orientée. Ils sont bien partis, qu'ils vont pas faire de grosses erreurs, de comme « Oh, no! » Surtout que la première saison est tombée dans un niveau de préscience assez important, surtout quand on regarde les dénonciations qui ont été faites avant Kevin Spacey, puis cet épisode-là où on était capable de croire la victime. Il y a du serendipity qui est, à mon avis, juste comme des coïncidences cosmiques incroyables, puis on dirait que comme l'univers au complet s'est aligné pour s'assurer que Discovery fonctionne. Oui, c'est peut-être un peu ésotérique, mais bon, c'est comme
parenthèse
ça que je
vois. Pour les gens qui comprennent pas ce que Jean-Michel est en train de dire, Anthony Rapp, qui est un personnage, qui est un acteur qui joue dans Discovery, est la personne qui a initialement accusé Kevin Spacey d'agression sexuelle, fin de la parenthèse, qui est aussi homme homosexuel. Et donc, l'idée de Kevin Spacey de se défendre en disant que « Ah, mais c'est parce que je suis homosexuel puis je l'ai toujours caché » est encore plus insultante pour la victime. Fin de la parenthèse qui explique le commentaire de Jean-Michel.
Oui, et au-delà du fait aussi, il faut rajouter au fait que l'épisode de la semaine...
est arrivé peut-être juste une semaine tout après cette histoire-là avec Kevin Spacey.
Quelques jours, où on mettait en scène cet acteur-là qui devait reconfirmer son statut continuellement.
Mon Dieu, oui, c'est vrai, c'est un épisode où justement, très 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 rapidement, il se retrouve un peu dans une espèce de loop temporel et il doit... constamment convaincre l'équipage qu'il a déjà vécu ça et qu'il sait ce qui va arriver.
Et qui est la proie d'un prédateur qui va...
Oh mon Dieu!
Non, vous n'avez pas du tout
vu ça. J'ai vu, mais je m'en souvenais pas. Okay. Mais écoute, c'était très, très fort. Quand j'ai vu l'épisode, je pense que comme j'ai tout le long, j'étais complètement abasourdie. C'était juste parfait. En fait, je me suis demandé si c'était un timing marketing ou pas. Je sais que j'étais un petit peu... c'était un petit peu dégueulasse comme manière de penser, mais c'était tellement bien timé que c'est comme c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit momentanément, mais je me suis dit, mon Dieu, il ferait jamais ça. Il y a des choses qui se font pas.
Ben oui, c'est ça. Puis en même temps, je préfère croire que c'est juste une coïncidence, ce qui fait que Star Trek devait revenir dans les vies et dans l'imaginaire à ce moment-là, puisqu'il sera toujours un bon sur nos problèmes, sur nos blessures engendrées par un monde qui est brisé.
Ouais.
C'est ce que je tiens à dire.
Mon Dieu, mais c'est la plus belle conclusion au monde.
C'est parfait.
Bon, hey, merci énormément pour l'émission, Roxane. Une fois de plus, grande capitaine.
Toujours
en
là.
Voie d'admiralisation. Merci. Admiralité?
Admiralisation, j'aime
Admiralité, parce qu'il y a admiral et il y a admiré. Admiral, oui, there you go. Vois,
okay.
Je savais que j'étais capable de faire pire. Merci beaucoup, merci beaucoup, Megan. On va aller écouter Kyle Andrews avec sa pièce Spider God, parce que, sérieux, on doit admettre qu'il y a l'art de nommer une chanson, puis celle-là, c'est l'art. Je sais pas c'est quoi la pièce. Bonne semaine tout le monde, bonne écoute.